VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 4 février 2022, en direct de Washington, Idrissa Seboulia
et Nanit Talani.
Nous commençons par les titres.
L'Égypte à la finale de la CAN, le Cameroun, pays hôte, éliminé. Nous retrouverons tout à l'heure Emmanuel Juntap à Yaoundé.
Le Burkina Faso échappe à de nouvelles sanctions de la CEDEAO après le sommet de l'organisation à Accra, au Ghana.
Au Nigeria, crainte d'une possible marée noire après un incendie sur un navire pétrolier.
Covid-19, une biotech sud-africaine annonce avoir produit le premier vaccin à ARN messager en Afrique.
Le président américain Joe Biden dit avoir éliminé une menace terroriste après la mort du chef du groupe État islamique, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.
Voilà pour les titres, le journal maintenant.
L'Égypte barre la route de la finale de la CAN au Cameroun. Le pays hôte a été éliminé hier en demi-finale lors de la séance de tir au but. Score final, Égypte 3, Cameroun 1. Les pharaons rejoignent ainsi les lions de la Teranga du Sénégal en finale prévue ce dimanche. Nous retrouvons à Yaoundé pour le journal de la CAN, Emmanuel Juluntap. Bonjour Emmanuel.
Bonjour. C'est devant un peu plus de 24 000 spectateurs que le Cameroun a chuté hier devant l'Égypte en match de demi-finale au stade d'Olembe, comme en 1972, lors de la première Coupe d'Afrique des Nations organisée par le pays. Le Cameroun sort de la course au stade des demi-finales. Et une fois encore, les pharaons se présentent comme les bourreaux des lions indomptables. Cameroun-Égypte d'hier, sous le coup de sifflet du jour, avec Jules Valentin Ngoué, depuis Libreville.
Bonjour. Comme en 1986, lors de la finale du Caire entre le Cameroun et l'Égypte, c'est encore l'Égypte qui passe après la séance injuste des tirs au but. Face à des Camerounais plus entreprenants et dominateurs en première mi-temps, les Égyptiens ont joué de prudence pendant que les Camerounais se procuraient les situations et les occasions de but les plus nettes. Mais l'Égypte va inverser la situation en deuxième mi-temps, alors que le 11 de départ des Lions s'épuisait progressivement, son jeu collectif perdant la tonicité et la précision d'une première mi-temps dont la domination aurait dû être matérialisée au marquoir. Au bout d'une prolongation achevée sur les genoux, la fatidique séance des tirs au but allait tourner rapidement en faveur des Nord-Africains qui en étaient à leur troisième exercice du genre réussi depuis les huitièmes de finale contre la Côte d'Ivoire. C'est donc l'Égypte de Mohamed Salah qui retrouvera ce dimanche en finale le Sénégal de Sadio Mané dans un duel fratricide entre les duétistes de l'attaque du FC Liverpool pour un sacre qui sera le premier à l'avantage du gagnant du jour. Mais les Égyptiennes qui viennent d'aligner trois prolongations de suite et qui accusent un jour de récupération en moins, pourront-ils reproduire les mêmes efforts lors d'une finale tout aussi relevée? C'est la problématique principale de la rencontre de dimanche. À bientôt.
Justement, l'Égypte veut affronter le Sénégal lundi au lieu de dimanche. L'entraîneur adjoint des pharaons, Dia Al-Sayed, a formulé cette demande hier à la CAF lors de la conférence de presse d'après-match. Nous l'écoutons.
Bien sûr, nous avons une fierté d'aujourd'hui, mais il y a une étape à franchir. Je veux dire aux responsables de la CAF qu'il y a une journée additionnelle pour le Sénégal. Moi, je souhaite que comme il y a eu le troisième et le quatrième qui ont eu un peu de réajustement de temps, qu'il y ait aussi lundi ou mardi. C'est ce que je demande, la finale. Et je répète, je demande à la CAF de revoir la question que la finale se joue lundi.
Éliminés en demi-finale, lors des séances de tir au but, les Lions indomptables ont été particulièrement maladroits dans cet exercice. Seul Vincent Aboubakar a pu inscrire son pénalty. Les supporters camerounais en veulent à leur entraîneur et à certains joueurs.
depuis le recrutement de M. Conseil Sao. C'est un entraîneur qui n'a pas de palmarès. Il fallait que l'équipe soit confrontée à un adversaire de calibre, comme l'Égypte, pour qu'on voie qu'elle a encore trop à faire, qu'elle est mal gérée. Comment pouvez-vous comprendre que Dier Clinton, qui ne fout rien, qui ne vaut rien, soit mis sur le terrain en lieu et place de Choupo-Moting?
La présence de Clinton Dier, qui n'était pas le meilleur choix, on pourrait pas dire peut-être comme un Choupo-Moting.
Mais l'entraîneur n'a plus sélectionné certains joueurs, comme Dier Clinton, comme ça, là, il n'est même plus joué au ballon.
Ma plus grande déception vient des joueurs qui, surtout Clinton Dier, c'est ce monsieur qui prend le penalty. Mieux ici, le gardien arrête, mais pas dehors.
Pour l'entraîneur du Cameroun, le manque d'efficacité de ses poulains en première période a été pour beaucoup dans cette élimination. Antonio Conseil Sao.
Pendant 90 minutes, l'équipe a bien joué. Elle a cherché à marquer un but. Et nous avons eu 3 à 4 positions, situations de but. On n'a pas pu marquer. La vérité est que nous n'avons pas pu marquer. Et à la deuxième mi-temps, on a commencé à voir des signes de déséquilibre de la part des joueurs. Et donc, nous n'avons pas pu gagner et nous ne serons pas en finale. C'est la vérité. Nous sommes aussi tristes que les 27 millions de Camerounais. Mais c'est cela le football. L'équipe a essayé, mais notre équipe a contré notre volume offensif. Et nos capacités offensives ont été contrées. Et nous sommes arrivés au pénalty. C'est là la dure réalité du sport. Nous sommes tristes, mais c'est la réalité.
Samedi, ce sera un remake du match d'ouverture de la CAN. Les deux demi-finalistes malheureux, le Burkina Faso et le Cameroun, livrent le match pour la troisième place au stade Amadou Ahidjo. Le journal de la CAN de ce jour s'achève. Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Merci Emmanuel. Dans le reste de l'actualité, la CEDEAO réunie hier à Accra pour évaluer la situation au Burkina Faso après le coup de force du 24 janvier n'a pas pris de nouvelles sanctions contre le pays qui avait été suspendu vendredi des instances de l'organisation régionale. Cependant, les 7 chefs d'État présents ont demandé un chronogramme clair pour aller aux élections. Notre correspondant Lamine Traoré a suivi ce sommet d'Accra.
Il n'y aura pas de nouvelles sanctions de la CEDEAO contre le Burkina. 7 présidents ouest-africains ont pris cette décision hier à Accra au Ghana. À l'issue de ce sommet, la CEDEAO appelle les militaires au pouvoir à Ouagadougou à mettre en place immédiatement l'autorité de la transition, à adopter un calendrier de transition et favoriser le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai convenu et raisonnable. Les chefs d'État ont exigé une fois de plus la libération sans condition et la protection du président Roch Kabore, et ce, sans plus tarder, ont-ils précisé. Les chefs d'État ont donné des instructions à la commission de la CEDEAO de veiller à maintenir le contact avec la junte au pouvoir à travers la mise en place de mécanismes de suivi auxquels seront associés la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies dans le but de soutenir la transition, selon le communiqué final. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La CEDEAO a en revanche décidé de maintenir ses sanctions contre le Mali et la Guinée, deux pays où des militaires ont également pris le pouvoir par la force en 2020 et 2021. La résurgence des coups d'État dans notre région est un sujet de grave préoccupation. Cette évolution remet en cause le mode de vie démocratique qu'on a choisi, a déclaré le président ghanéen Nana Akufo-Addo en ouvrant le sommet, appelant la CEDEAO à rester ferme.
Crainte d'une marée noire sur les côtes du Nigeria après l'incendie d'un navire pétrolier d'une capacité de stockage de 2 millions de barils. Une explosion à bord est à l'origine de l'incendie, Abdourahman Dia.
Des images diffusées par des médias locaux montrent une épaisse fumée noire s'échappant d'un navire éventré, ravagé par les flammes et en train de couler. L'entreprise nigériane propriétaire du navire a indiqué que 10 membres d'équipage se trouvaient à bord de cette installation pétrolière au large de l'État du Delta, dans le sud du Nigeria. Aucun décès n'est déploré pour l'instant. L'entreprise a indiqué qu'une enquête est en cours pour faire la lumière sur la cause de l'explosion. Les autorités fédérales nigérianes ont également lancé de leur côté une investigation. Le navire a une capacité de traitement de 22 000 barils par jour et une capacité de stockage de 2 millions de barils. La marine nigériane a assuré avoir déployé ses navires pour apporter l'aide nécessaire. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent de l'impact de cet incident. Les marées noires sont fréquentes mais touchent généralement le fleuve Niger et ses affluents, mais rarement en pleine mer.
Une société de biotechnologie sud-africaine, Afrigen Biologics and Vaccines, a annoncé hier avoir fabriqué le premier vaccin à ARN messager contre le COVID-19 sur le continent africain à l'aide du séquençage de Moderna et qu'il serait prêt pour les essais cliniques en novembre. La société dirige le projet pilote soutenu par l'OMS et l'initiative COVAX. Il devrait permettre aux pays à revenus faibles et intermédiaires de produire eux-mêmes des vaccins, selon la directrice générale d'Afrigen.
Et puis l'OMS a estimé hier que l'Afrique doit multiplier par 6 le taux de vaccination contre le COVID-19 pour espérer atteindre l'objectif de 70% de couverture vaccinale fixé pour la fin du premier semestre 2022. L'Afrique a reçu plus de 587 millions de doses de vaccins, mais elle peine encore à étendre le déploiement de la vaccination avec seulement 11% de la population entièrement vaccinée. A expliqué le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.
Les secouristes ont continué à livrer dans la nuit de jeudi à ce vendredi un combat contre la montre pour tenter de sauver un garçonnet de 5 ans, le petit Ryan, bloqué dans un puits profond d'un village du nord du Maroc depuis mardi après-midi. Un drame qui tient le royaume en haleine. Les opérations de secours sur le terrain se sont intensifiées dans la soirée autour du puits avec des bulldozers.
Le président américain Joe Biden a assuré avoir éliminé une menace terroriste majeure après la mort du chef du groupe État islamique Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi lors d'une opération des forces spéciales américaines en Syrie. Le point avec Michel Joseph.
Les États-Unis ont éliminé une menace terroriste majeure dans le monde, a dit hier le président américain dans une brève allocution à la Maison-Blanche. Selon lui, Qurashi a choisi de se faire exploser en portant plusieurs membres de sa famille, comme l'avait fait son prédécesseur, Abu Bakr al-Baghdadi, mort dans un raid américain en octobre 2019. Les forces spéciales américaines sont arrivées en hélicoptère près des camps de déplacés de la localité d'Atmé, dans le nord-ouest de la Syrie. L'opération a fait au moins 3 victimes, la femme de Qurashi et 2 enfants, a précisé le Pentagone. Qurashi, de nationalité irakienne, surnommé le professeur ou le destructeur, avait accédé à la tête du groupe État islamique à la mort de Baghdadi. Il s'est vu offrir une chance de se rendre, mais a choisi de se faire exploser, selon le général américain Kenneth McKenzie, chef du commandement central de l'armée américaine. Joe Biden a suivi toute l'opération depuis la Situation Room, aux côtés de la vice-présidente Kamala Harris, ce qui rappelle l'assaut contre Osama Ben Laden en 2011 au Pakistan.
Par ailleurs, lors d'une visite à New York, le président Joe Biden s'est insurgé hier contre la vague de violence par arme à feu qui meurtrit le pays. Claire Morin-Gibourg.
Trop, c'est trop, parce que nous savons que nous pouvons faire quelque chose contre cela, a martelé Joe Biden en visite à New York. La ville a été secouée ces dernières semaines par une vague de violence par arme à feu. Dans un discours, le président américain a repris des chiffres de la criminalité à l'échelle nationale, dénombrant 64 enfants blessés dans des violences par arme à feu depuis le début de l'année et 26 tués. Si Joe Biden a reconnu que les autorités fédérales devaient faire davantage, il assure qu'une stratégie de lutte contre la criminalité a été mise en place dans des villes comme New York, Philadelphie et Atlanta. Accusé par son opposition républicaine de passivité dans le combat contre l'insécurité en hausse depuis 2020, le chef d'État démocrate a dénoncé la résistance de certains secteurs du gouvernement, du Congrès et d'assemblées d'États fédérés sans apporter plus de précisions.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Des forces spéciales américaines ont éliminé le chef du groupe État islamique Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Il est mort dans une explosion qu'il a lui-même causée lors d'une rare opération conduite dans le nord de la Syrie dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'agit de la plus importante opération des forces spéciales américaines en Syrie depuis la mort, dans un raid similaire en octobre 2019, d'Abu Bakr al-Baghdadi, précédent chef de l'organisation djihadiste. Eric Manira Kidza a joint à Paris le directeur de recherche auprès du Centre français de recherche sur le renseignement et ancien officier des services de renseignement français, Alain Rodier.
Effectivement, les forces spéciales américaines renseignées par les services donc de renseignement américains ont été particulièrement efficaces. Je rappelle que dans le passé, ils ont déjà neutralisé Ben Laden, al-Baghdadi, et maintenant donc le dernier en date. Donc professionnellement parlant, je ne peux dire qu'une chose, c'est chapeau, c'est extrêmement performant. Surtout qu'en plus, pour les trois personnages qui ont été neutralisés, ce n'était pas dans des zones faciles. Ben Laden, il se trouvait au Pakistan, et les deux autres dans la province d'Idlib, qui est contrôlée par les insurgés syriens. Donc, c'était une problématique extrêmement compliquée, et donc... Vraiment, ce sont des belles opérations, et la dernière, en plus, c'est, je dis pas dépasse les autres, mais du même niveau.
Et comment vous décrivez al-Hashimi par rapport à al-Baghdadi ou Bin Laden?
Alors, il était beaucoup plus discret, parce que justement, je pense qu'il craignait beaucoup pour sa vie. Et donc, il émettait beaucoup moins sur les réseaux sociaux, pas sur les différentes messageries cryptées qui peuvent exister. Il se montrait très discret. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas efficace, parce que malheureusement, on peut lui imputer les dernières opérations qui ont eu lieu contre une prison en Syrie, dans l'est du pays, et en Irak. Donc, il était encore extrêmement opérationnel. Et je pense qu'il n'y a pas un hasard au fait qu'il était neutralisé juste après ces opérations, parce que Washington a voulu montrer que, il n'était pas dupe.
Est-ce que vous pensez que son élimination va affecter l'activité de l'État islamique?
Alors là, je suis beaucoup plus prudent. Malheureusement, l'expérience montre, dans la lutte contre le djihadisme international, et nous, la France, on est les premiers concernés, quand on élimine un chef, aussi important soit-il, eh bien malheureusement, il est immédiatement remplacé par un de ses adjoints, bon, certainement avec une certaine période de latence, mais malheureusement, ce n'est pas l'élimination des chefs qui amène la destruction d'un mouvement terroriste.
Alain Rodier, directeur de recherche auprès du Centre français de recherche sur le renseignement et ancien officier des services de renseignement français.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, le département de la Lingala est en passe d'être isolé du reste du pays faute de routes praticables. Et les bacs qui permettaient de franchir les grandes rivières ont été retirés de la situation suite à un litige entre une société forestière et les autorités. Reportage d'Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Depuis quelques semaines, partir pour la Likwala devient un parcours du combattant. À l'absence d'une route praticable s'ajoute aujourd'hui la suspension du service des bacs qui aidait à la traversée des rivières Ibenga à Bissambi et Mutaba à Sambala. Sorel Eta, un manager culturel auprès des populations autochtones pygmées, a pu accéder dans la Likwala. Voici son témoignage.
Et une fois à Pokola, on loue un véhicule, on parcourt une centaine de kilomètres pour arriver dans un village qu'on appelle Mboa. Et de là, nous avons loué 3 pirogues motorisées pour la vingtaine de personnes jusqu'à atteindre en une journée un petit village qu'on appelle Matoko, situé sur la route Epena-Ifondo-Dongo. Et de là, nous avons emprunté un autre véhicule qui nous a conduit à Ifondo, qui est situé à 80 kilomètres de Matoko. Et cela nous a coûté très cher et qui est fait même ne nous a pas permis de continuer la tournée telle qu'on le souhaitait.
Les sociétés forestières et les organisations humanitaires ou de la société civiles peinent à réaliser leurs activités. Elles ne peuvent aller sur le terrain faute de route. C'est le cas de André Pemba de la société civile.
Nous avons un chronogramme qu'il faut respecter. Il faut faire la visite de terrain, il faut aller là où se trouvent les autochtones pour essayer un peu de voir l'évolution des actions que nous menons. Alors lorsque nous sommes coupés donc du reste de la Likwala, c'est un peu difficile que nous puissions justement mesurer à juste titre les réalités, sinon les activités que nos équipes qui sont dans le département ne cessent de mener, ça fait pratiquement une année et demie. Aujourd'hui cette situation doit interpeller les pouvoirs publics.
Dans certaines villes de la Likwala, comme Infondo et Dongu, les populations ressentent les effets. Une enseignante à Infondo décrit la situation.
Nous avons l'augmentation des prix sur le marché, tels que le litre d'huile qui était à 1000 francs, c'est maintenant 1500. Les habitants du Fondo vivent de grandes difficultés.
Dans les rues d'Infondo, le chef-lieu, les habitants se plaignent.
Infondo, à l'hôpital, nous n'avons pas de radio, nous n'avons pas les équipements adéquats, donc les malades sont évacués vers Brazzaville, puisque c'est là-bas que tout le monde a un parent.
Les commerçants sont obligés de payer les motos, de payer les moteurs hors bord pour aller prendre leurs marchandises au niveau de Bouyéli. D'où il y a la flambée des prix.
Si la route est devenue impraticable par manque d'entretien, mais qu'est-ce qui se passe avec les bacs qui n'assurent plus la traversée ? Maître Steve Bagne, ressortissant de la Likwala, explique.
Depuis le 6 janvier, les bacs qui étaient gérés par la société CIB ont été retirés par cette société au motif que le gouvernement a dénoncé la convention qui liait la CIB au gouvernement. Et aujourd'hui, c'est un calvaire et une catastrophe humaine parce que l'augmentation des denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques, les parents souffrent, pas moyen de les évacuer sur Brava.
Le département de la Likwala, situé à l'extrême nord, est l'un des vastes du Congo. Il comporte en grande majorité des forêts et des rivières comme Lubangi, Ibenga Mutaba ou la Likwala aux herbes. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Les autorités camerounaises profitent de la Coupe d'Afrique des Nations de football pour promouvoir l'éducation auprès des populations autochtones dans des zones reculées. Les Baka, qui vivent de chasse et de cueillette dans les forêts, ont accès aux services sociaux. Avec la CAN, ils viennent dans les villages pour regarder les matchs à la télévision. Moki Edwin Kinzeka s'est rendu à Lomié, dans le sud-est du pays. Son reportage est relaté ici par Nathalie Barge.
Un Baka du village de Mbang soutient les lions indomptables du Cameroun. Mbang est un village du district de Lomié, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec la Centrafrique. Les autorités locales et des commerçants ont improvisé des espaces avec des téléviseurs. Des dizaines d'indigènes viennent dans les villages pour regarder les matchs de la CAN.
Allez, allez les lions, on part, bravo, toujours gagné. Allez, 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 allez les lions, toujours gagné, bravo, toujours gagné. Allez, allez.
Samedi, les fans se sont réjouis lorsque le Cameroun a battu la Gambie par 2-0 pour se qualifier en demi-finale. Zambé Nguela est marchand de fruits d'origine Baka.
On avait acheté une petite télé de 32 pouces, plus une plaque solaire qui donne l'énergie. En fait, tout est possible qu'on doit visionner les matchs de Lyon.
Le gouvernement veut profiter de la situation pour promouvoir l'éducation. Le ministère de l'Éducation de base a déclaré avoir dépêché au moins 200 enseignants pour encourager les autochtones à envoyer leurs enfants à l'école. Georgette Minou, institutrice d'origine Baka.
Maintenant, il est temps de s'adapter et de s'ouvrir au monde extérieur afin de pouvoir améliorer nos conditions de vie, améliorer la qualité de vie et surtout la santé. Parce que à l'école, on nous apprend à laver les mains, ce qui n'est pas évident au campement. Lorsqu'on se lève le matin, il faut se brosser. Au campement, c'est pas évident. Maman, c'est qu'elle me donne à manger.
Les enseignants disent aux enfants que les joueurs de football ont tous reçu une éducation de base et qu'il leur serait difficile de jouer au niveau national et international sans éducation. Félicien Mbala est maire de Lolodorf, une petite ville du sud qui abrite des centaines d'indigènes.
J'ai lancé une opération d'établissement des actes de naissance pour ces enfants pygmées. En ce moment, on est à près de 160 pygmées. Le recensement continue. Après, nous allons donc saisir le tribunal de Kribi pour que ce tribunal autorise la commune d'établir les actes de naissance à ces enfants.
L'Institut national des statistiques du Cameroun indique que le pays compte environ 80 000 autochtones, dont les trois quarts des enfants ne vont pas à l'école. Le gouvernement affirme qu'il est en train de créer des écoles dans les forêts dans le cadre de ses efforts pour répondre aux besoins éducatifs des enfants.
Début aujourd'hui des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, l'événement sportif mondial se heurte à quelques obstacles, comme nous le rapporte Pénélope Poulou de la VOA, son reportage relaté par Jacques Aristide.
The International Olympic Committee has the honor
91 pays prennent part aux JO de Pékin avec un total de 109 épreuves dans 15 disciplines sportives. La Chine a imposé des protocoles rigoureux pour empêcher la propagation du Covid-19. Pas de tickets vendus au public, pas de contact entre participants et visiteurs, une quarantaine de 21 jours pour les athlètes non vaccinés avant les Jeux et des tests de dépistage effectués quotidiennement. Hormis le problème Covid, le traitement réservé par la Chine aux Ouïghours et à d'autres minorités ethniques dans le nord du pays plane sur l'événement. Jen Psaki est la porte-parole de la Maison-Blanche.
L'administration Biden a décidé de n'envoyer aucune représentation diplomatique ou officielle aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin 2022 en raison du génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang et d'autres violations des droits de l'homme.
La Chine a critiqué ce qu'elle appelle la politisation de ces JO. Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Le sport n'a rien à voir avec la politique. Les Jeux olympiques sont un grand rassemblement pour les athlètes et les fans de sport, pas une scène pour des postures politiques.
Au sujet des accusations faites contre Pékin, pas de commentaires du Comité international olympique, non plus de la part de NBCU, le diffuseur exclusif des JO aux États-Unis, comme l'indique Andrew Zimbalist, professeur d'économie au Smith College.
Ils ont tous des investissements massifs dans ces jeux et ils veulent qu'ils se déroulent bien. Ils doivent coopérer les uns avec les autres.
Pour le professeur Zimbalist, qui a publié des livres sur l'économie des Jeux olympiques, la Chine exerce une grande influence sur les marchés internationaux, les investisseurs évitant de fâcher Pékin. Pour des observateurs, l'événement n'est pas susceptible d'attirer le grand public 6 mois après les JO d'été de Tokyo.
De toute évidence, il y avait une baisse de l'audience pour les Jeux de Tokyo. Quand ces Jeux se déroulent à l'autre bout du monde, le décalage horaire pose problème pour les téléspectateurs américains.
Suivre les Jeux olympiques ou pas, Andrew Zimbalist est d'avis que ce ne sont pas les questions d'ordre politique politiques qui entrent en jeu pour la plupart des téléspectateurs. D'après lui, s'ils doivent regarder ces jeux à la télévision, ils le feront pour le frisson et pour les équipes qu'ils soutiennent.
C'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia et Nani Talani, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.